Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Fringale. Ce soir, émission spéciale prédiction foireuse. Voilà, on sort nos pires boules de cristal et on va vous annoncer comme ça, là, au doigt mouillé, qui va réussir ou qui ne va pas réussir sa saison 2024. Pour m'accompagner ce soir et pour parler de ces magnifiques prédictions, c'est un peu la Madame Irma de l'équipe, c'est Poppy. Salut Poppy, comment vas-tu ?
Salut, salut à tous. Ouais, on va essayer d'être ultra précis. Évidemment, vous pouvez déjà miser sur ce qu'on va dire ce soir. Tout sera vrai. Et puis on en parlera au mois d'octobre, évidemment, quand tout sera réalisé finalement.
Voilà, parfait. Donc n'hésitez pas, c'est ça, hein, miser votre maison, votre voiture, tout. Hein, vous pouvez y aller.
On recherche toujours pour la façade, si jamais. vous pouvez y aller. Hein.
Également pour nous accompagner, celui qui a montré qu'il avait quand même quelques qualités dans les pronostics, c'est Titien. Salut mon Titien, comment ça va ?
Salut, salut à tous, salut les copains. Bah écoute, super content d'être là. Cette émission, elle me fait plaisir parce que ça y est, enfin, on rentre dans la nouvelle saison. J'étais content que le cyclocross il arrive, mais je suis aussi content qu'on reprenne la route parce que c'était beaucoup moins passionnant cette année. Donc voilà, je suis bien content qu'on s'approche des premières courses. Il y a déjà quelques petites épreuves qu'on reprit et du coup hâte de donner nos pronostics et évidemment de me tromper comme vous, hein, évidemment, mais c'est un peu le but.
En tout cas, nous, Titien, on est méga contents parce que émission après émission, mois après mois, on découvre de mieux en mieux ta magnifique voix. Et là, je pense que les auditeurs vont t'entendre à la perfection cette fois-ci, donc c'est parfait. Également, messieurs, petit point recrutement. Alors, le recrutement est terminé. Nous avons recruté nos candidats que vous connaîtrez très bientôt. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Voilà, il y en a qui sont allés un peu plus loin dans le processus de recrutement que d'autres. Il y en a qui ont pu passer des entretiens, etc., etc. On sait que bah voilà, c'est le principe d'une campagne de recrutement, c'est qu'à la fin, bah il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents. En tout cas, on voulait voilà vous remercier infiniment pour tout l'engouement que ça a créé, toutes les personnes qui nous ont envoyé des candidatures. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors pour le moment, il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais on verra comment le média se développe et bien évidemment au plaisir de pouvoir un jour collaborer avec vous. Voilà, ça nous a pas mal touché parce qu'au début, bah comme on vous raconte souvent, on était trois pauvres clampins au fond d'un bar qui se sont dit ce serait génial de faire ça, et puis deux ans après on se rend compte que ça intéresse quand même du monde et qu'il y a du monde qui souhaite nous rejoindre, donc ça veut dire que le travail qu'on fournit est pas si mauvais que ça. Donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, je voulais donner un deuxième petit point mais j'ai zappé. Ah oui, et également je voulais vous parler de quelque chose. J'ai l'impression qu'on a un petit phénomène qui est en train de se développer. C'est-à-dire que, bien évidemment, on fait du contenu sur Internet et on le met en avant des personnes qui souhaitent réagir sur ce qu'on propose. L'espace commentaire est plutôt un espace qui permet de réagir par rapport à ce qui est dit afin de parler un petit peu de contenu cycliste. Voilà, des courses, des coureurs, etc., etc. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on n'est pas des professionnels. Les émissions, on les enregistre à la fin de la journée, après une journée de taf dans les pattes, on fait du mieux qu'on peut. On essaye de vous préparer ça au mieux, de vous fournir le meilleur contenu. Mais on vous avoue que oui, il peut arriver qu'en fin de journée, on ait tendance à répéter plusieurs fois les mêmes mots, que parfois on utilise des mots un petit peu grossiers, etc., etc. Voilà, ce sera pas mieux, malheureusement. Hein. On continuera à dire voilà plusieurs fois par émission. Peut-être qu'on continuera à avoir d'autres tics de langage plusieurs fois par émission. Si les commentaires que vous nous laissez sont dans le but de nous aider à nous améliorer, sachez que sur cette partie-là, ce sera peut-être un peu compliqué, car comme vous pouvez vous en douter, après une journée de taf qui commence généralement aux alentours de 7h et qui finit aux alentours de 18h-18h30, eh ben on n'est pas forcément en grande forme pour avoir son meilleur français. J'espère que vous le comprendrez, et si jamais bah, vous n'y arrivez pas et que ça ne passe pas, n'hésitez pas potentiellement à aller écouter un autre média avec des personnes qui sont payées pour produire du contenu cycliste et qui du coup ont certainement un phrasé bien meilleur que le nôtre. Voilà, c'est pas une réflexion de rageux, c'est juste pour vous dire que débat de vélo avec vous, comme on peut le faire sur les Pères d'Ossard ou toutes les autres émissions qu'on fait, bah c'est super intéressant pour nous parce qu'on se définit plutôt comme une bande de potes qui a envie de partager sa passion. Après, si vous cherchez du contenu parfait ou en tout cas d'un autre niveau, bah vraiment, hein, c'est très sincère, on vous encourage à aller le chercher là où il peut se trouver. Hein. On pourra peut-être même faire une liste éventuellement de chaînes un petit peu plus professionnelles que nous. Nous, on est plus là pour la déconne et pour le plaisir. Donc voilà, on vous remercie par avance pour votre bienveillance, messieurs, dames. Messieurs, je crois qu'il va être temps pour nous d'attaquer cette émission. Alors Titien, tu nous as préparé un petit quiz. Alors malheureusement pour toi, tu sais que moi, je suis pas le meilleur joueur de quiz. Je crois qu'au vu des derniers résultats, copie non plus.
Alors, non, malheureusement.
De pas trop te décevoir. Mais voilà, on va faire de notre mieux.
Ouais, mais je vous ai préparé un truc pas trop compliqué, les gars. Donc, et j'espère que vous avez suivi ce début de saison. Si vous l'avez pas suivi, c'est sûr que ça va être compliqué.
Moi, si c'est Tour d'un Under, ça devrait aller.
Eh ben, c'est parti sur le Tour d'un Under, effectivement. La première épreuve World Tour de la saison. Donc, qui s'est disputée la semaine dernière avec la victoire finale de Stephen Williams de l'équipe Israël Premier Tech. Alors, j'ai des petites questions.
C'est tout
voilà,
ce que je savais.
Pas ouais. Trop compliqué.
Voilà. Ça, t'abuses.
Non, allez. Allez, attention. Donc, bah, écoutez, non, mais c'est une question. Pour la première question, sur toutes les questions que je vais poser, sauf la deuxième, ce sera une question un point. Et puis pour la deuxième, il y aura un peu plus de points à gagner, mais normalement, ça va aller assez vite. Vous êtes prêts?
Allez, faisons comme ça.
Allez, bah, de toute façon, c'est la dictature ce quiz, donc voilà, vous avez pas le choix.
La quiz-tature. Alors,
première question. Bah, Stephen Williams, il a gagné ce Tour de Nunder, mais il y a eu 6 étapes. Combien elle a fait de top 3 en 6 étapes, Stephen Williams?
Ah, je dirais 2.
Un seul?
Non.
3?
Oui, bien joué. Bien joué, un point pour Théo, effectivement.
Ah, j'étais pas hyper précis, mais...
3 top 6. Voilà.
Une sur 6.
Alors, il fait sur l'avant-dernière et la dernière, et l'autre, il la claque quand?
Et sur la deuxième, en fait, celle que gagne Del Toro, là. C'est lui qui lance le sprint et il reste 3e à la fin derrière Strong et Del Toro. Donc, effectivement, 3 top 3 pour Stephen Williams, c'est une belle victoire finale sur le Tour de Nunder pour bien lancer sa saison.
Il nous a un peu
alors
surpris,
attention.
Hein. Genre juste on peut faire un débrief rapide, moi je m'attendais pas à voir ça.
Je crois que c'est derrière les fagots.
Bah, je crois que c'est un bon puncher sprinter, j'ai l'impression. Un mec qui grimpe plutôt bien les petites bosses, mais qui est pas très régulier jusqu'à là. Je crois qu'avant, il avait fait un ou deux résultats chez Bahreïn. Mais écoute, en tout cas, peut-être que cette fois-ci, ce sera son année. En tout cas, écoute.
Il était pas dans mon équipe
parti.
Cycling Fantasy, hein. Voilà, on va parler de chrono après.
Ça commence mal l'année.
Allez, on enchaîne avec une deuxième question. Et cette fois-ci, donc, alors, je vais vous demander un chiffre. Et puis ensuite, je vais vous demander des noms. Si vous me donnez le chiffre, vous avez un point. Si vous me donnez les noms, vous avez un point par nom donné. Vous êtes prêts?
Ouais.
Combien de Français y a-t-il dans le top 10 final de ce Tour Down Under et qui sont-ils?
Rah. Bah, il y en a un déjà, c'est
un seul.
Il y a Alaphilippe.
Ouais.
Ouais. C'est et ensuite
tac, tac, tac. Alors, attends.
Ah, il y a la Groupama. J'ai oublié son nom.
Non, il n'y a pas de Français. Il est pas français, néo-zélandais, malheureusement.
Pardon.
Non, c'est un petit indice, c'est un coureur de l'équipe Décathlon.
Oh putain, j'ai tellement pas suivi à ce point-là, j'ai honte.
Un mec qui est vraiment pas épais.
C'est un jeu de mots ou c'est une indication physique?
Non, pas du tout, mais non, c'est vrai, c'est pour vous aider. Je peux vous dire que c'est pas un gros cuisseau, quoi.
C'est pas un pareil peintre?
Ouais.
Ah, peut-être!
Un Valentin?
Valentin pareil peintre.
Putain, j'ai vu qu'il avait fait qu'il était pas mauvais, mais je l'avais oublié, voilà. Tu vois, comme on a dit. Alors, fin c'est... de journée.
Eh bah, écoute, ça fait un point chacun, parce que vous avez trouvé le bon nombre, et puis un point en plus pour Théo, qui a trouvé Valentin pareil peintre.
Et il y en a les deux, du coup.
Je suis à Philippe aussi,
ouais. Ouais, donc ça fait 3 pour Théo et 1 pour Poppy. Et on passe à la troisième question. Alors attention, question histoire. Cette année, contrairement à l'an dernier, c'était le retour de la fameuse bosse de Willunga Hill sur le Tour Down Under, celle qui est si mythique depuis une dizaine d'années, qui n'était pas l'an passé. Vous savez, Willunga Hill, c'était la montée que gagnait chaque année Richie Porte à sa grande époque. Combien de fois Richie Porte s'est imposé au sommet de Willunga Hill?
Allez, 6 fois. La même idée.
Ah, bien joué, Poppy, 6 fois. Ah, il a été plus rapide.
Ouais, bah, effectivement, tu sais quoi, c'était au doigt mouillé, finalement, les promos, ça vaut le coup.
Et ce qui est marrant, c'est que il y a l'année où il la gagne pas, et ben il arrive quand même à gagner le classement général final. Donc, ouais, Richie Porte, c'était vraiment le spécialiste sur cette côte. Allez, 3-2, rien n'est joué. On enchaîne avec la quatrième question. Alors là, les gars, on va repartir loin dans l'histoire puisqu'on repart en 99 sur la première édition, tout simplement, qui était le vainqueur du Tour de Nunder en 99. Et l'indice que je peux vous donner, c'est que c'était un Australien que vous connaissez sûrement.
Bradley McGee.
Non. 99. Un mec qui a beaucoup performé dans les années 2000. Un Australien.
Stuart O'Grady, France. O'Grady.
Ah, bien joué, Stuart O'Grady.
Oh là là.
Qui était dans une équipe qui a enchaîné les équipes françaises au Crédit Agricole et chez Cofidis.
Et ben,
Stuart O'Grady.
J'avoue que j'ai été un peu aidé parce que dans les mecs que je vais vous présenter tout à l'heure, je me suis retapé un peu les étapes de sprint de grand tour du début des années 2000 pour retrouver les dernières années où AG2R a gagné des sprints massifs sur des grands tours. Voilà. Donc, il était pas chez AG2R, mais j'ai vu son nom passer et ça a été facile de l'avoir en tête. Oui, il était Crédit Agricole, lui, non? Et puis Cofidis.
Ouais, d'abord, et puis après Cofidis, c'est ça, ouais.
Tout à fait.
Ouais, ouais.
Bon vieux Stuart.
Allez, les gars, on va enchaîner avec la dernière question. Et puis, donc, il y a 4-2. Et puis, comme j'ai envie de créer un peu de challenge, cette question, elle vaut 2 points. Donc, voilà. Poppy, tu peux toujours revenir à égalité.
Ah, je vais rien dire. Question. Allez.
Qui est le coureur le plus titré sur le Tour Down Under avec 4 succès?
Richie Porte.
Bah ouais.
Ah non, Richie Porte, il a gagné que 2 fois le Tour Down Under.
Ah ouais?
Et ouais, il gagne
souvent. J'étais persuadé qu'il a gagné à minima 3 fois.
Non, c'est pas
Cadel Evans. Bah non, pas Cadel Evans.
Non.
Stuart O'Grady.
Un indice, c'est un Australien.
Ah bah.
Mon dieu.
C'est un Australien vainqueur de 2 monuments.
Bon, il n'y en a pas 100 000, les Australiens qui ont gagné 2 monuments.
Ah non, il n'y en a pas 100 000, mais il y a un Australien qui a gagné 2 monuments.
Alors, il faut creuser.
Un mec qui avait une petite pointe de vitesse, quand même. Hein.
On a dit McEwen, mais il a gagné des monuments, McEwen, non?
Je crois pas, non. Et puis,
non, il n'y en a pas.
Et c'est un mec qui savait grimper un peu, quand même.
Oui, il vaut mieux, quand même, pour les tours.
Vitesse,
même.
Grimpe.
Je vous donne les monuments. Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège.
Simon Gerrans.
Bien joué.
Wow,
Simon Gerrans. Il a gagné
4 fois lui.
Et ouais. 4 fois le Down Under. Donc voilà, effectivement. Et bravo Théo, c'est une belle victoire face à Poppy.
Bah bravo. Ouais, ça avait l'air d'être compliqué.
Pour un quiz de rapidité. C'était les paresseux chez Zootopie. Titien, au bout du 50e indice, il est à 2 doigts de nous faire un pendu. Bon, la première lettre, c'est un G, il y a 2 R au milieu de son nom de famille, les gars. Putain, c'est chaud. Ok, nice. Ouais, c'est cool, en fait, le retour des quiz.
Bah ouais, c'est cool. Donc, c'est pas fini, les gars. Donc, pour aujourd'hui, c'est fini, mais je pense qu'il y en aura tout au long de la saison. Donc, voilà.
Par contre, révisez. Je viens de découvrir l'adrénaline du quiz parce que jusqu'à maintenant, c'est moi qui les faisais, donc je les vivais pas trop. Et c'est vrai que ça fait un petit quelque chose quand même, là. Hein, t'es comme ça au début, ouais. Tac-tac. Ouais, très bien. Bah écoute, méga cool. Merci Titien pour ce super
bah de rien.
Merci beaucoup, oui.
Il va être l'heure maintenant pour nous de partir dans nos prédictions. Messieurs, alors, le format sera le suivant. Titien, je crois que tu nous as préparé des petites fireboulettes pour la fin. C'est-à-dire coureurs que tu vas nous lancer comme ça un peu à la volette. Et puis nous, on devra dire si ce sera un top ou un flop cette année. Et puis, on vous a préparé...
Exactement, ça va être carrément avec une question ouverte sur ce coureur.
Formidable. Et puis nous, du coup, chacun, on a préparé à chaque fois un top et un flop pour la saison. Je vous propose qu'on commence par nos flops. Je suis un mec comme ça, je suis pessimiste ce soir.
Mais c'est bien, commence par les flops, oui.
Je suis flopimiste. Eh bien moi, messieurs, je vais commencer par mon flop. Ce soir, j'ai bien envie. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission, donc j'ai bien envie de parler un petit peu vélo.
Vas-y.
Et en plus, alors, j'ai commencé par un flop, clairement, où vous allez dire, la Torne, tu ne prends aucun risque. Et peut-être que je prends un risque, on ne sait pas. Peut-être va-t-il renaître de ses cendres à 33 ans, alors qu'on ne l'attend plus. Je vais vous parler d'un Irlandais qui a changé de crèmerie cet hiver pour rejoindre une équipe française. Et cet Irlandais, c'est un sprinter, mais vous allez me dire, ah, il a certainement rejoint une équipe traditionnellement pas trop mauvaise au sprint, telle Cofidis ou encore Groupama. Eh bien non, messieurs dames, il a rejoint AG2R, et je parle bien évidemment, enfin qui s'appelle maintenant Decathlon, AG2R la mondiale, je parle évidemment de Sam Bennett. Alors Sam Bennett est-il venu en pré-retraite? Je vais vous dire que oui, tout à fait, on peut même dire qu'il est venu en retraite, le petit Samy. Et alors pourquoi j'en parle ce soir? Eh bien ça fait un petit peu lien avec le Tour Down Under. On vous a parlé des transferts rapidement. On a parlé de Welsford qui était arrivé dans l'équipe où courait notre ami Sam Bennett l'année passée, c'est-à-dire la Bora. Et on se disait, quand même, il avait un pas mauvais train, le Sam Bennett l'année dernière, il performait pas trop. Et là on a Welsford qui arrive, qui est un bon sprinter, mais qui est pas non plus le top sprinter du peloton des 3 dernières années, et qui casse complètement toute la concu sur le Tour Down Under. Alors bon, vous allez me dire, c'était peut-être pas le meilleur plateau de sprinter, mais quand même. Alors que Sam Bennett, l'an passé, a quand même bien galéré. Alors, il a 2 étapes sur le Sibiu Cycling Tour, où il gagne le classement par points. Il a une petite étape au début de l'année 2023 sur la Vuelta San Juan, à San Juan International. Mais c'est bien tout, et c'est bien maigre pour un sprinter de sa carrure. Alors, il va en plus de ça aller chez AG2R, qui a quand même pas l'effectif taillé pour l'emmener le mieux possible au sprint. On sait que c'est un gars qui a besoin d'être emmené au sprint. Il va dans une équipe, comme je le disais, qui a pas forcément la culture du sprint, bien que Marc Sarro a quand même trusté des belles places sur des courses qu'on pourrait dire un petit peu, pas de seconde zone parce que c'est péjoratif, mais des courses qui sont pas forcément les courses de top top niveau, qui est parti d'ailleurs cette année chez nos amis de la Groupama. Moi, je le vois arriver bien comme un gros flop, et comme je vous le disais, j'ai fait un petit peu mes recherches concernant les dernières victoires en grand tour au sprint pour AG2R. En tout cas, sur le Tour de France, ça remonte, et Titien nous l'avait bien dit à Jean-Patrick Nazon. On avait parlé, je crois, dans les top coureurs du 21e siècle, Titien, ou non ?
Ouais, les Français, ouais.
Ouais,
les
voilà,
Français.
C'est ça, les Français du 21e siècle. Ça m'avait fait bien plaisir, d'ailleurs, de réentendre parler de Jean-Patrick Nazon. Et puis, à l'époque, hein, il y avait le grand Yann, le Yann Kirsipiu, qui avait quand même assuré un petit peu le sprint à l'époque de Casino, qui était un très bon sprinter. Mais depuis, on s'est clairement tourné vers une équipe qui truste plutôt des places au général des grands tours, avec des coureurs qui sont plutôt soit des coureurs de classement général, soit des punchers, baroudeurs punchers. Voilà, je vous annonce, je vois bien Sam Bennett poursuivre la trajectoire d'un Peter Sagan, encore pire, puisque Peter Sagan arrivait encore à nous faire, sans dire des coups d'éclat, peut-être un peu vibrer. On se rappelle notamment de quand il est à deux doigts de gagner face à Van Aert, là, il y a deux ans. Par contre, Bennett, j'ai vraiment l'impression que ça va être floppy floppa cette année, donc ce sera mon flop pour cette année 2024.
Ouais, bah je suis assez d'accord. Enfin, en fait, Sam Bennett, l'année dernière, il n'a pas montré forcément de grandes choses, alors qu'il est quand même dans une bonne équipe. En tout cas, la Bora, c'était une équipe beaucoup plus taillée pour le sprint que Decathlon AG2R. Maintenant, voilà, c'est un choix, comme tu l'as dit, de fin de carrière. Je pense qu'il s'il est réussi à avoir une ou deux victoires cette année, c'est quand même vraiment excellent. L'équipe n'est pas du tout taillée, en tout cas pour le sprint. Il va devoir un petit peu jouer sa carte tout seul. Mais je trouve qu'à la différence d'un mec comme Sagan par exemple, qui lui a été chez Total Energy, il était aussi un petit peu laissé en solo pour les sprints. Bah, en fait, Sagan, il avait quand même une intelligence de sprints. Il a souvent dû se débrouiller un petit peu seul pour gagner ses sprints. Là où Bennett, il a toujours eu besoin quand même un petit peu d'un train. Et en fait, qu'il était notamment chez De Koninck ou à la Bora, là, je trouve que ça va pêcher, quoi. Clairement, autant Sagan, comme je l'ai dit, pas m'inquiéter un peu moins, mais autant la Bennett, ouais, je pense que ça va être un petit peu cata, et ça va suivre en gros son année 2023 qui est trop insuffisante, en tout cas pour un sprinter comme lui qui a été maillot vert, donc voilà quoi.
Ouais, moi j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que déjà l'attente, tu t'es pas trop mouillé sur ton flop, hein, parce que oui. Quand même ça m'énette, voilà. Mm-hmm. Non, c'est un peu plus mouillé, vous allez voir, hein, mais
normalement.
Et puis en plus, je viens de voir que très bonne nouvelle pour lancer Sam Bennett, ils ont pris un lanceur tout frais, tout neuf, un très jeune, Edvald Boasson-Hagen.
Ouais, il est dans l'équipe. Ouais.
49 ans après retraite aussi, donc à mon avis les deux. Le duo ensemble là, ça va. Non, il y a aucune logique pour aucun des deux parties, si ce n'est que la seule logique est peut-être du côté de Sam Bennett qu'il a peut-être réussi à négocier un bon dernier gros contrat dans une World Tour, mais en tout cas du côté de Decathlon, en fait, il était emmené par peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur poisson pilote l'an dernier, et ça marchait pas. Donc cette année, il aura quasi pas de poisson pilote dans une équipe qui a aucune culture du sprint. J'y crois pas une seule seconde, donc oui, pour moi, Sam Bennett, ce sera un gros flop annoncé. Et c'est peut-être d'ailleurs la seule prédiction qu'on fera de juste, à mon avis, d'ici la fin de l'émission.
Titien, t'avances pas trop, tu me connais, à tous les coups, Sam Bennett claque trois premières étapes de Paris-Nice au calme, la renaissance. L'air de la montagne lui a fait du bien.
À la fin de l'année, un petit article, le duo Boasson-Hagen-Bennett, incroyable.
Les papis font de la résistance.
Dans la force de l'âge, voilà.
L'expérience avant tout.
C'est ça. Ok, à vous messieurs, parlez-moi de vos risques.
Vas-y, Poppy.
Écoute, moi en flop, j'ai choisi quelqu'un qui est peut-être actuellement le coureur le plus connu du monde. J'ai choisi Tadej Pogacar en flop cette année. Oh là là, oh là mais là. Quelle catastrophe, oh là là. Quel choix. Pourquoi Tadej Pogacar? Pour plusieurs raisons. On l'a vu sur les deux derniers Tours de France avec un petit des moments de fébrilité déjà. Ce qui prouvait que Pogacar, malgré ses saisons de fou furieux, n'était pas inusable. Il n'était pas inusable. Et cette année, Pogacar, il s'est dit, en vrai, le Tour de France l'année dernière, c'était chaud. J'ai vraiment sué. Du coup, pourquoi pas me rajouter un petit Giro et pourquoi pas essayer de faire un non pas un triptyque, mais un quadruplé. Donc, il fait Giro, Tour de France, Championnat du monde sur route et Jeux olympiques. Et en fait, Pogacar, j'ai un peu
Il a le syndrome du Van Aert, tu crois ?
Il a le syndrome du Van Aert. Non, il l'a pas. Tout il l'a pas pour moi. Non, parce que en fait, c'est Pogacar. Il a envie de tout gagner. Ça, on l'a bien vu, je pense. Et il est capable de tout gagner. Et je pense qu'il le sait aussi. Elle est là aussi, je pense, sa grande force. Mais au-delà de ça, en fait, Pogacar, je sais pas. Peut-être, j'ai envie de me dire. Enfin, je me dis sûrement que ça va être une année de gros tests pour lui. Voilà, il va voir ce que ça donne de faire ces quatre grosses épreuves. Alors ensuite, il se met sur d'autres épreuves. Je crois qu'il s'est mis sur Strade Bianche aussi. Enfin, il s'est mis sur d'autres courses comme ça.
Milan-San Remo, ouais.
Il fait pas le Tour des Flandres.
Non, il fait Liège.
Donc voilà, il fait quand même une grosse année. Et en fait, je le vois complètement, en fait, ne pas être capable de savoir quoi faire. Si je suis bien dans le Giro, est-ce que je joue à fond, sachant que derrière, il y a le Tour à jouer. Ouais, mais en fait, arrivé sur le Tour, je me rends compte que le Giro, c'était peut-être de trop et j'ai pas réussi à le gagner, donc j'ai mal géré mon économie. C'est pas grave, je vais jouer les championnats du monde. Sauf qu'au championnat du monde, tu tombes sur un mec comme Van Der Poel qui fait une saison de fou furieux encore une fois. Et au final, tu te fais complètement avoir. Et après, tu te dis, il me reste les JO. Sauf qu'au JO, t'as des gars qui préparent mieux la course et en tout cas qui ont mieux géré leur année et au final qui te mettent carotte et qui bossent peut-être plus en équipe que la Slovénie. Donc en fait, j'ai peur que Pogacar, il se fasse un peu avoir sur chacune des courses auxquelles il participe. Et en fait, dans les attentes qu'on a de Pogacar, évidemment, ça sera un flop de le voir gagner aucune course cette année. Je lui souhaite pas, en tout cas, mais j'ai peur que ça lui arrive. Là, il mise vraiment sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux différents. Déjà, quand il disait qu'il jouait le Tour de France et les classiques, monuments, etc. Le mec, c'est un malade, etc. Là, il joue encore plus que ça. Donc, je pense que ça va être un peu trop pour Pogacar cette année. Mais c'est bien, il va pouvoir tester ses limites, voir sur quoi se concentrer, comment gérer ses saisons un petit peu différemment, mais en tout cas je vois bien un flop en tout cas niveau résultat pour Pogacar cette année.
Eh bien, Titien, qu'en penses-tu?
Moi je suis pas du tout d'accord, mais moi je pense que ça va être une grande année, que Tadej Pogacar il va continuer à rentrer dans l'histoire. En fait, c'est un mec, chaque année il aime le vélo, il kiffe, il a besoin de s'amuser, il a besoin de se fixer de nouveaux défis. S'il gagne le Giro cette année, s'il gagne les championnats du monde, et moi, pour moi, sur ces deux courses, ce sera le grand favori vu son calendrier. Il aura réussi sa saison, quoi qu'il en soit. Il lui manquera quoi au palmarès? Une Vuelta derrière. Et puis, voilà. Enfin, qui dit qu'il n'ira pas non plus claquer un quatrième Tour de Lombardie en fin d'année? Il deviendrait l'égal de Fausto-Coppi à ce niveau-là. Donc, non, moi, vu son programme de course, sauf incident, Tadej Pogacar, il va remporter le Giro. Enfin, ce serait une énorme surprise. Il faudrait un problème physique ou des circonstances de course terribles pour que Tadej Pogacar, vu la concurrence qui est annoncée sur le prochain Giro, ne gagne pas.
Il y a Bardet quand même.
Non, mais voilà, Tadej Pogacar, il va faire l'Estrade Bianche, je sais pas qui aura, ce sera également le grand favori d'Estrade. Il va faire le Tour de Catalogne, une course qu'il a jamais encore disputée, à mon avis. Il y a une concurrence qui est à sa portée, il aura peut-être pas trop de mal à remporter le Tour de Catalogne. Il va refaire Milan-San Remo qu'il a pas encore gagné. Rien que s'il gagne ces courses-là, en fait, même s'il gagne pas le Tour de France, pour moi, sa saison, elle sera réussie. Et le championnat du monde, vu le parcours qui est taillé pour un puncher, un peu grimpeur, etc., il est parfait pour lui. Donc, limite, je suis un peu déçu qu'il fasse le Tour de France. Je me suis dit, quitte à faire une saison comme ça, il aurait pu le zapper et carrément aller faire la Vuelta pour gagner finalement toutes ces courses qu'il n'a pas au palmarès cette année, courses durant lesquelles il n'aurait pas forcément rencontré une adversité qui l'aurait empêché de gagner, et revenir ça y est gonflé à bloc sur le Tour de France les années après, concentré sur cet objectif. Et effectivement, là où je pense que c'était dur contre Vingegaard sans le Giro dans les pattes, ça sera encore plus dur avec le Giro dans les pattes. Mais dans sa construction de carrière et dans le fait que Tadej Pogacar continue à écrire l'histoire, moi, à mon avis, j'annonce, pour moi, Tadej Pogacar va remporter le Giro et je serais pas étonné qu'il remporte le championnat du monde qui lui va comme un gant à la fin du mois de septembre. Donc, dans mes prédictions, moi, non, je suis pas totalement d'accord et je pense que justement, ce sera un top pour moi cette année.
Je trouve ça assez intéressant. En fait, je pense que ça dépend vraiment d'où on va fixer la barre pour Pogacar. Genre, Est-ce que si Pogacar ne gagne que le Giro, c'est un flop? Que le Giro, entre guillemets, bien sûr, hein, mais pour un coureur de sa stature, est-ce qu'une victoire sur le Giro, ça fait de lui une saison, ça va lui donner une saison complète? Est-ce que une victoire sur le Giro plus un tour de Lombardie, ce sera une saison top? Sachant que ça fait 2 ans que son objectif, quand même grandement avoué, c'est de regagner le tour et qu'il n'y arrive pas. 2 ans qui gagne pas le tour et qui gagne beaucoup de choses autour, hein, bien évidemment, c'est toujours un peu le problème, hein. Meilleur coureur t'es, plus tu gagnes des choses, plus on a besoin que tu gagnes tout pour être exceptionnel. Moi, je te rejoins, Poppy. Je me dis qu'en effet, si Pogacar, enfin, je dis pas que t'as dit ça, mais moi, mon idée, c'est que si Pogacar ne gagne entre guillemets que le Giro, ce sera une saison flop pour lui. En revanche, si le Giro c'est son grand tour de l'année et qu'il agrémente ça d'un monument, voire deux, voire d'un championnat du monde et pas de monument, sa saison sera réussie. Après, je trouve ça intéressant ce que tu soulèves. Est-ce qu'il va pas s'éparpiller? On sait qu'il aime beaucoup courir. Est-ce qu'à trop courir, il va pas justement être un peu moins en forme sur les gros événements? On a vu par exemple que Mathieu Van Der Poel a changé sa strat l'année dernière et ça a quand même permis de bien fonctionner pour lui. Après, on a aussi vu, et là je te rejoins Titien, qu'un Pogacar sur un circuit un peu long avec des bosses bien punchy, aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas grand monde, si ce n'est personne, qui peut le battre ou le tenir. Donc ce sera certainement un des très très grands favoris pour ces championnats du monde, à voir. Moi je suis assez mitigé, mais allez, j'ai bien envie de... Voilà, si ma limite c'est s'il gagne juste le Giro, c'est une saison flop... Allez, j'ai bien envie de dire Pogacar cette année ne remporte entre guillemets bien évidemment que le Giro et du coup à la fin de l'année on se dit il a pas fait la saison qu'on attendait de lui. Je mise là-dessus.
Mm-hmm. Bah écoute, on verra bien, mais voilà, c'était vraiment mon avis là-dessus. Enfin, en vrai, je suis d'accord. Tu vois, je veux dire, ça dépend si sur le tour il est amené comme un coéquipier de Yates, bah en vrai on peut pas lui en vouloir, tu vois, s'il gagne pas, ça sera un coéquipier, ça sera ce rôle là et on pourra pas lui en vouloir. Après, Pogacar sur une course, clairement, pour moi il y va pas en tant que coéquipier, hein, il y
bah
va
oui,
pour gagner.
Non, c'est impossible, c'est impossible.
Ah oui, mais tu vois, du coup, pour moi, s'il gagne déjà pas l'un des deux grands tours, pour moi c'est déjà presque un flop, hein.
Ah oui, tu vois, pas l'un des deux. Non, ouais. S'il gagne le Giro, gagne le Giro, le championnat du monde et le Tour de Lombardie et qu'il finit 10e du Tour, pour moi, sa saison sera réussie. Enfin,
ouais, aussi.
L'histoire, elle continuera à être écrite avec Pogacar. Et là, pour le coup, l'année prochaine, il sera champion du monde. Il aura gagné un autre grand tour que le Tour. Il pourra vraiment se reconcentrer à fond sur le Tour de France. Donc là, effectivement, par contre, catastrophe industrielle, s'il gagne pas le Giro, déjà, ça sera très, très mal embarqué pour une saison réussie, là c'est sûr.
S'il n'y a pas le tour dans son calendrier, tu vois, je le mets clairement en top parce que pour moi, ce Tour de France, ça va juste le fatiguer plus qu'autre chose. Et pour moi, sans ce Tour de France, il peut gagner.
D'accord.
Tout. Voilà.
Je suis d'accord. J'aurais bien aimé le voir à la Vuelta pour ça. Ouais.
Très bien. Titien, quel est ton flop?
Moi aussi, j'ai pris un gros coureur. J'ai pris Remco Evenepoel de la Soudal Quickstep.
Les Belges en furie. Toujours...
On enchaîne bien là.
Non, mais
heureusement qu'on n'a pas de public slovène, hein, parce que sinon.
Non, mais comment dire? En fait, Evenepoel, force à lui. Hein, il décide de se présenter au départ du Tour de France. Il va axer sa saison là-dessus. Il a tout à fait raison. Il va axer sa première partie de saison sur également les classiques comme Liège-Bastogne-Liège. Il va découvrir l'Amstel Gold Race, etc. Bah, écoutez, ma prédiction. Déjà sur cette première partie de saison, c'est qu'il ne gagnera pas Liège, puisque je pense que Mathieu Van Der Poel a à cœur d'aller chercher un quatrième monument qu'il n'a pas cette année, et je vois gros comme une maison, vu que sa puissance dans les bosses cette année, qui s'alignera cette fois-ci sur Liège, et que pour moi, il sera très très fort. Donc après, encore une fois, c'est que mon pari. Donc je pense que Evenepoel ne gagnera pas Liège, et du coup, on aura une première partie de saison mitigée. Et ensuite, malheureusement, je pense que sur le Tour de France, Remco Evenepoel va découvrir une course d'un tout autre niveau que les Giro qu'il a pas fini d'ailleurs, ou que les Vuelta qu'il a disputé. Un Tour de France surtout qui va être marqué par des cols longs, surtout en dernière semaine à très haute altitude. On monte quand même la route la plus haute de France avec la cime de la Bonnette. Je trouve que c'est pas un Tour de France qui est hyper adapté à ses qualités. Il y aura des chemins blancs. Ça va peut-être lui rappeler des souvenirs du Giro 2020, tout ça. Donc, enfin, tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas un Tour de France finalement. Il pourra mettre à profit ses qualités d'exceptionnel rouleur pour reprendre beaucoup de temps sur les chronos qu'il y a sur des Pogacar ou Vingegaard. Et donc, à partir de là, il va falloir vraiment qu'ils mettent un cran au-dessus en montagne pour suivre. Mais moi, Evenepoel, je le vois, peut-être jouer, tu vois, quatrième, cinquième place. Et à la fin de l'année, s'il n'y a pas de monument, et surtout si sur ce Tour de France, il réalise vraiment Evenepoel qu'il est encore très loin de jouer avec Pogacar et Vingegaard, pour moi, ce sera un peu une déception vu ce qu'on attendait de ce coureur depuis 2018-2019 et quand il écrasait tout en junior. Donc, écoute, moi j'espère, parce que c'est un coureur que j'aime bien, Evenepoel, il fait toujours le spectacle, mais je pense que voilà, cette année, il est courageux, il va prendre un programme de course très très relevé. Mais je pense que ça va être à un niveau trop élevé, notamment Vingegaard et Pogacar seront trop forts sur le tour pour que Evenepoel puisse lutter. Donc voilà, ce sera flop dans le sens où finalement on réalisera que vraiment en termes de coureur de grand tour, ça va être très très compliqué pour lui, notamment de gagner un Tour de France.
Ouais. Ouais. Ouais, pardon, vas-y Poppy.
Vas-y Théo.
Ouais, comme tu veux. Ce qui est intéressant, je trouve, quand on regarde le programme de Evenepoel cette année, c'est qu'il fait la traditionnelle, si vous avez joué à Pro Cycling Manager, du mec qui a un coureur de grand tour un peu punchy, ou en tout cas du coureur de grand tour au-delà de Pro Cycling Manager, hein, du mec qui voilà, qui gagne des classements et qui veut gagner des grands tours et qui en plus est capable de s'aligner sur des belles classiques. Alors il y aura la Volta d'Algarve, pardon, il y aura du Paris-Nice, il y aura du Tour du Pays Basque, Into, une fois qu'il sera bien chauffé sur le Pays Basque, les classiques ardennaises, la Flèche, l'Amstel, Liège, Into, le Critérium du Dauphiné qui est jusqu'à maintenant peut-être la meilleure course pour préparer le Tour, derrière le Tour de France, et puis il terminera avec les Jeux Olympiques sur ce qui est annoncé pour le moment. Son programme, il est parfait, il est parfaitement taillé pour briller sur ses objectifs qui vont être, à mon avis, les Ardennaises plus le Tour. Je suis un peu partagé, parce que j'ai l'impression qu'un des trucs qui fait aussi la force de Remco, c'est l'abnégation, et j'ai l'impression que quand il se fixe un objectif, et on l'avait vu notamment sur la Vuelta qu'il remporte, alors oui, Roglic était sorti de la course, mais Remco était très fort, et j'avais vu notamment des interviews de son directeur sportif qui nous disait que bah il avait perdu beaucoup de poids, qu'il s'était beaucoup entraîné pour cette course, qu'il avait fait super attention, etc., etc. Enfin, on sentait qu'il était prêt, quoi. Et je me demande si du coup cette année il va pas se mettre en mode spartiate et vraiment nous préparer un tour et nous montrer un niveau qu'on n'attendait pas. Alors de là à les gagner, je sais pas, mais peut-être de là à faire un beau tour, de là à nous faire frissonner, de là à nous faire nous dire ah il est pas si loin en fait, parce qu'on va pas se mentir. Autant après la Vuelta de l'an passé, il arrivait sur le Giro un peu comme le grand favori, il avait levé pas mal de doutes et on se disait ah bah ça y est, en gros Vuelta il y a 2 ans, Giro l'année dernière et puis Tour de France dans 3 ans quoi, enfin l'année prochaine. Et finalement bah ça capote sur le Giro à cause du Covid, il revient sur la Vuelta, clairement il lève pas du tout les doutes sur la Vuelta, bien au contraire, c'est-à-dire que bah le classement général ça passe à l'as. Les seules étapes qui paraissaient vraiment dangereuses pour lui, bah vraiment, il finit très mal. Et puis voilà, donc il fait finalement une saison, autant à la fin de l'année 2022, on était là, waouh, Remco exceptionnel, autant à la fin de l'année 2023, bah il y a plus de questions que de réponses. Malgré tout, quand je vois son programme, je suis plutôt rassuré de la manière dont il va aborder sa saison. On voit que les objectifs sont clairs, on voit qu'il va se préparer clairement pour tout ça. On sait aussi qu'il va avoir une équipe 100% dévouée, alors on en a parlé pendant les transferts, peut-être qu'il aura pas la meilleure équipe pour l'aider. Mais en tout cas, ils essayent de créer un peu un truc autour de lui. Je le vois pas remporter le tour, mais allez, moi je vais dire que je le vois pas flopper non plus. Voilà. Ce sera peut-être pas un top à la fin de la saison. Par contre, si, il y a un truc où je vois clairement pas Van Der Poel aujourd'hui meilleur que Remco, les deux en pleine forme sur Liège. Je pense que Liège, on l'a vu notamment sur le Tour des Flandres, où on disait ah c'est vraiment la course de Mathieu Van Der Poel, il est imbattable, etc., etc. Moi, je pense que dans les bosses avec un peu plus longues et avec un peu plus de pourcentage, Van Der Poel, il est clairement à la merci des meilleurs punchers grimpeurs. On l'a vu face à Pogacar et je pense que Remco dans les bosses aujourd'hui, il est plus costaud qu'un Mathieu Van Der Poel, surtout dans les bosses comme celle de Liège. Alors peut-être qu'il va travailler pour être bon là-dedans à Van Der Poel, hein, mais au niveau des profils en tout cas actuels, je le vois encore un cran derrière. Et je pense que par exemple, s'il s'aligne, je vois un Remco plus capable de lâcher un Van Der Poel dans certaines bosses et d'aller s'imposer. Donc non, moi je le vois pas flopper, je le vois pas réaliser non plus la saison de rêve en remportant le tour, mais je pense qu'à la fin de l'année, on sera plutôt content de sa saison.
Ouais, ça dépend de ce qu'il va faire encore une fois. Si son objectif est énorme, enfin son objectif c'est le tour, et qui en tout cas il est pas capable de jouer la gagne, je pense qu'il va être ça va être difficile pour lui de jouer la gagne, comme Titien l'a expliqué. Ça sera un flop. Après, bon, il y a d'autres courses qui sont là aussi pour lui. Le problème c'est que le Tour de France va arriver après toutes les autres courses quasiment de la saison. hormis les JO et potentiellement les championnats du monde s'il les fait. Mais ça va arriver juste après, donc ça veut dire que si tu te préserves à minima pour le tour et que t'en gardes un petit peu sous la pédale et que du coup tu gagnes ni la Flèche, ni l'Amstel, ni Liège et qu'au Tour de France tu te prends une pétée par tout le monde, je pense que la saison elle va être un petit peu compliquée même si tu gagnes les JO, tu vois. Je pense que s'ils gagnent les JO et qu'ils gagnent rien d'autre, j'aurais plus tendance à dire que ça lui sauverait sa saison, même si c'est magnifique hein, d'avoir un titre olympique. Après voilà, s'il arrive à taper Amstel, Flèche, Liège, que sur le tour, il s'écroule complètement et que derrière il gagne les Jeux et qu'il fait un podium au championnat du monde par exemple, ça serait une saison complètement réussie pour Remco. Mais en tout cas, il faut voir comment il gère les autres courses. Ça va être assez important. Mais s'il repart pas de sa campagne ardennaise avec au moins une victoire, ça peut être compliqué en fonction de ce qu'il faut aussi sur Paris-Nice et sur le Critérium. Mais en tout cas, si tu remportes pas le Critérium, en tout cas que t'es pas dans les favoris à la fin de ce Critérium et que derrière t'as rien gagné, ça va être compliqué, je pense, la saison pour Remco.
Écoutez, on verra ça. En tout cas, voilà. Au moins, je voulais prendre un petit risque sur le flop, donc écoute. Voilà.
Tu veux enchaîner avec ton top,
Allez, j'enchaîne avec mon top, comme ça on repart. Mon top, j'ai pris un coureur de grand tour aussi, j'ai pris un jeune qui monte et que j'aime beaucoup. Je vais parler de Carlos Rodriguez de l'équipe Ineos. Alors pour moi, il va toper. Carlos Rodriguez, il m'a impressionné sur le Tour de France l'année dernière. Faut se redire que sur ce Tour de France, il avait 22 ans quand même. À 22 ans, et il revenait d'une sale blessure, puisqu'il était tombé en début d'année sur Estrade Bianche. Il n'avait pas couru pendant 3 mois, il avait simplement repris pendant la semaine du Critérium du Dauphiné, et puis ensuite il avait enchaîné avec le Tour de France, où à 22 ans seulement, il a totalement rivalisé, on va pas dire avec Pogacar et Vingegaard, mais carrément pour moi derrière, c'était avec peut-être les frères Yates, Hindley, etc. Il était vraiment au niveau de ces mecs qui pouvaient viser la troisième place. J'ai trouvé impressionnant. Souvent, c'était quand Yates emmenait Pogacar et Vingegaard, derrière, c'était le dernier à être lâché, etc. Seulement 22 ans, encore une fois. Il a un petit peu craqué en fin de tour, mais il est tombé. Et puis également, il était très jeune, mais quand même. Et puis on voit que derrière, il revient au Tour de Lombardie en fin de saison. Il est dans le groupe des meilleurs. Donc je trouve que c'est un jeune qui est très très bien monté depuis 2 ans. Pour moi, c'est un mec qui sait parfaitement gérer ses efforts dans les montées également, qui manque malheureusement un petit peu de punch. Mais je vois une grosse saison pour Carlos Rodriguez. Je le vois très bien figurer à minima sur... je le vois, tu vois, sur le podium de 2 monuments, je vois bien sur le podium d'un Liège-Bastogne-Liège, qui est une course. Je trouve que c'est un mec très fort en endurance et qui est très bon sur les courses qui sont dures, qui se lancent de loin. Et voilà, donc moi je le vois bien figurer à Liège, peut-être sur le podium. Je le vois bien également sur le podium du Lombardie. Malheureusement, je pense que sur ces deux courses, il manquera un peu de punch ou de pointe de vitesse pour gagner. Et puis voilà, je lance ma prédiction et mon pari de la saison, mais. Je pense que, enfin, ma prédiction, je prends un petit risque, mais pour moi, Carlos Rodriguez sera sur le podium du Tour de France 2024. Voilà, j'ai pas plus d'arguments ça, si ce n'est que voilà, il m'impressionne et je pense qu'à 23 ans, il va encore montrer toute l'étendue de son talent. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Écoute, je suis assez d'accord avec toi et en plus, je mets également l'argument pour Carlos Rodriguez que c'est un peu ce dont on parlait dans les transferts. Ineos, ils ont fait un peu le ménage de ces seconds couteaux qui pouvaient être des demi-leaders et qui pouvaient peut-être être dans les pattes de leaders vraiment désignés. J'ai l'impression que ce ménage, il a aussi été fait pour permettre à Carlos Rodriguez de prendre la place qu'il est censé avoir dans l'effectif, c'est-à-dire s'aligner sur le Tour de France comme le leader unique, ayant pour objectif d'aller faire la meilleure perf possible. Et je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Et ouais, je te rejoins assez. Je suis d'accord avec toi. Je pense que voilà, il va pouvoir prendre les responsabilités. Il a montré l'an passé qu'il était capable déjà à un très jeune âge d'assumer des responsabilités. En effet, c'est un coureur qui est plutôt qui sent les bons coups, hein, qui est plutôt malin, qui est plutôt intelligent. On l'avait vu notamment dans sa victoire sur le Tour cette année. Il avait profité des circonstances de course pour attaquer au bon moment et aller s'imposer à Morzine. Clairement, je te rejoins là-dessus, Titien.
Je suis plutôt d'accord aussi. Carlos Rodriguez, il a tout pour lui, je pense. J'espère qu'Ineos va jouer autour de lui, mais je pense que ça me paraît le plus probable, en tout cas sur les grosses courses. Il est jeune, il a de quoi faire. On a vu qu'il était capable d'aller gagner des belles étapes comme à Morzine. On a vu qu'il a fini aussi. plutôt on va dire plutôt fort le tour cette année. Donc non, franchement, il a tout pour réussir. Et voilà, je pense que ça va rouler pour Carlos Rodriguez. En tout cas, les voyants sont au vert, j'ai envie de dire.
Très bien. Voilà, tout à fait. Pardon, excuse-moi, Titien. Vas-y.
Non, pas rien de plus à dire, si ce n'est que ça me fait plaisir. Voilà. Donc, j'espère qu'il va nous faire une belle saison. Je pense que sur les courses par étapes, il sera souvent dans mon équipe Cycling Fantasy. Voilà.
C'est annoncé, ça.
Très bien, Titien. Poppy, quel est ton top pour cette année?
Eh bien, en top cette année, j'ai choisi Jay Hindley.
Ah là 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 là.
Le chouchou à Titien.
Je vais les calmer, les groupes Hindley, moi, je te le dis tout de suite.
Aïe, 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 tonton Primoz. Non, mais Jay Hindley, parce que, je sais pas, l'année dernière, pour moi, il a pris un petit peu... Voilà, il a été pris... En tout cas, il y a cette victoire au Giro 2022 qui le glorifie un petit peu, et en 2020... Pas du tout, j'ai rien dit. Il y a cette victoire du coup au Giro qui le fait passer un petit peu dans un monde de favoris, en tout cas de vainqueurs de grands tours. Et cette année, enfin l'année dernière plutôt, quand il a ce maillot jaune sur le Tour de France, voilà, il est face à deux ogres, hein. Malheureusement, il peut pas faire grand chose. Je pense qu'on était tous un petit peu déçus qu'il ne garde pas ce maillot jaune un peu plus longtemps, en tout cas qu'il ne se batte pas forcément un petit peu plus. Mais c'est un coureur qui est constant, c'est un coureur qui sait aussi comment il faut rouler. Il a une intelligence de course qui est quand même plutôt, relativement bonne. Cette année, l'équipe Bora en plus est plutôt costaud. Alors j'espère que Hindley ne sera pas utilisé en lieutenant de Roglic, j'espère pas. J'espère qu'il aura une carte pour lui cette année. Que ce soit sur le Giro, sur la Volta ou sur le Tour, j'espère qu'il aura une carte pour lui. L'équipe du coup de la Bora, il y a de quoi emmener, hein. Il y a Higuita, Kamna, Martinez, Vlasov aussi. Enfin, t'as des mecs qui sont là pour faire la montagne, t'as des mecs qui sont là pour rouler aussi. Voilà, t'as clairement une bonne équipe pour l'entourer. Donc, t'as un coureur qui maintenant sait ce qui a déjà gagné des grands tours et sait ce qu'il faut faire pour en gagner. Enfin, qui avait déjà gagné un grand tour, pardon. Il a l'équipe qu'il faut, en tout cas, pour aller jouer les avant-postes, hein, clairement. Franchement, il faut pas, l'équipe de la Bora a pas à rougir quand on voit les noms qu'il y a dedans. Et puis, la Bora a aussi l'avantage d'avoir plusieurs cartes, ce qui donne aussi, entre guillemets, la permission à Hindley d'aller jouer potentiellement son grand tour. Voilà, en laissant Roglic peut-être sur la Volta, peut-être sur le Tour de France, à voir ce que va choisir Bora. Mais du coup, avec un Jay Hindley qui aura sa carte sur potentiellement le Giro ou sur le Tour. J'aimerais bien le revoir sur le Tour, Jay Hindley, cette année. Mais voilà, l'équipe est là. Il faut juste que les jambes répondent pour Hindley, mais on sait qu'elles peuvent répondre. Et puis voilà, moi je pense que cette année, Hindley, il a quand même beaucoup de choses en son avantage pour justement essayer de nous faire une belle saison.
Est-ce que je prends la parole tout de suite ou est-ce que je te laisse, Titien, corroborer les propos d'Antoine, toi qui es fan de Jay Hindley également?
Non, j'y vais rapidement, mais moi je suis assez d'accord. Alors je viens de regarder, Jay Hindley sera sur le Tour de France avec Roglic, ouais, et Vlasov. Donc okay, ils amènent l'armada à la Dream Team. Moi je suis plutôt d'accord. Je pense que l'année dernière il a un programme qui était assez nouveau pour lui, avec ce Tour de France pour la première fois, avec pas mal de courses qu'il n'avait pas l'habitude de disputer, lui qui allait souvent sur le Giro, et pourtant il s'en est très bien tiré avec ce magnifique coup, cette magnifique victoire d'étape et ce maillot jaune. Et puis il faut pas oublier qu'il est quand même tombé l'année dernière sur le Tour de France. Je pense que ça a joué, parce qu'à partir du moment où il était troisième du classement général quand il est tombé, ça a été beaucoup plus dur pour lui après sa chute sur la fin du Tour. Donc en tout cas, je pense qu'il a beaucoup appris de son premier Tour de France. Je pense que celui de cette année, Jay Hindley, c'est un coureur qui finit très bien ses grands tours. Là, la montagne est plutôt en dernière partie du tour, avec des cols qui lui conviennent parfaitement, c'est-à-dire des cols longs de plus de 15-20 km, avec une pente régulière, très haut en altitude, donc ça lui convient plutôt bien. Il faudra voir comment l'équipe Bora décide de l'utiliser. J'espère vraiment qu'ils joueront plutôt la multicarte plutôt que de faire le train pour Primoz Roglic. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on lâchera Vingegaard ou Pogacar. Donc voilà, après, encore une fois... moi, j'espère qu'ensuite il enchaînera avec la Volta. J'ai l'impression que c'est pas un coureur fait pour les classiques. C'est pas le coureur le plus punchy, ou en tout cas le meilleur sur les bosses là un peu courtes, etc. Donc je l'attends beaucoup sur pas mal de courses par étapes au long de l'année, sur les grands tours. Et puis j'espère effectivement, moi, si s'il arrive à faire podium du Tour de France, ce sera déjà très bien. Et je le vois en tout cas capable de performer à haut niveau, à la fois grâce à voilà son niveau et puis à l'émulation de l'équipe qui a bien progressé et qui s'est renforcée. Donc j'espère en tout cas, voilà, j'ai peut-être un peu moins de certitude que pour Carlos Rodriguez, mais si tous les voyants sont au vert, effectivement, je pense qu'il peut faire de belles choses cette année et pourquoi pas aller chercher soit le podium du Tour, soit carrément la victoire peut-être d'une Vuelta ou voilà, donc à voir.
Bien moi, messieurs, je n'y crois pas du tout. Mais pas du tout. Jane Lace, pour moi, c'est un coureur. Je sais pas quel est l'adjectif pour dire à anomalie. Je sais pas si ça existe d'ailleurs. Mais sa victoire sur le Giro il y a 2 ans, elle est. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. Elle est incroyable, certes, mais elle représente pour moi pas du tout la carrière de cycliste qui est ultra en dents de scie, pas du tout régulière, qui est capable en effet de faire des coups, mais plutôt capable de faire des coups lorsque la concurrence est moindre. Je l'ai jamais vu tenir tête vraiment à des coureurs exceptionnels qui trustent les meilleures places sur les dernières années. J'ai l'impression que le Tour de France, c'est aussi trop dur pour lui. Voilà, et je pense que la concurrence...
Et il était fort l'an dernier.
Ouais, il était fort, mais il était fort, il était quand même derrière, tu vois. Je veux dire, oui, le moment où il prend le maillot, il part dans l'échappée, et il gagne une belle étape, il résiste bien et tout, et il n'y a pas de souci. Mais par exemple, dès le lendemain où il a le maillot jaune, il fait un peu mieux, mais non, il fait même pas bien mieux que les autres. Il arrive dans le groupe avec Carlos Rodriguez, Simon et Adam Yates. Et puis après, bien sûr, il y a cette chute et tout, et c'est moins... je suis d'accord, mais par exemple, tu vois, tu parlais de Carlos Rodriguez avant. Si je dois rapidement, pour moi, faire une sélection des mecs que je vois devant Jane Lay dans le prochain Tour de France, bon, Pogacar, Vingegaard, potentiellement Remco, Carlos Rodriguez, je le vois devant, Roglic, je le vois devant, et enfin, tu vois, ça fait déjà un petit nombre où je me dis, ces mecs-là... et tu vois, on a parlé en off avant l'émission, t'hésitais un peu en flop, par exemple, à mettre Tao, et je trouve qu'ils ont des trajectoires qui sont assez liées, Tao et Hindley, notamment suite à ce Giro 2020. Et je trouve que Tao, aujourd'hui, je ferais plus confiance à un Tao qu'à un Hindley, tu vois. Pourtant, Tao a pas regagné depuis et Hindley gagne le Giro en 2022. Mais je sais pas, Hindley, c'est vraiment le type de coureur sur lequel je peux pas miser un copec, quoi. Trop irrégulier, trop aléatoire. Et pour moi, même intrinsèquement... Ben, tu vois, genre, par exemple, je me souviens de la Vuelta, après sa victoire sur le Giro, on était là, ouah, avec ce qu'il a montré sur le Giro, ça va être un favori logique, le parcours est pas trop mal pour lui et tout. Et finalement, sur la Vuelta, il nous déçoit de ouf, quoi. Il fait 10e au classement général, il galère, alors il finit pas trop mal, mais c'est quand même pas ça. Et j'ai l'impression que c'est ça l'histoire de la carrière de Jane Lay. Non, pour moi, sur le Giro, sur le Tour, pardon, cette année, il va être trop loin en général assez vite. Et si Roglic peut jouer un podium, ils vont tout faire pour lui faire avoir le podium. Donc ils vont faire rouler tout le monde. Et malheureusement, Hindley, on le verra pas aux avant-postes. Ou en tout cas, peut-être pour aller gagner une victoire d'étape, mais pas pour jouer le classement général.
Bah, moi, j'espère que Hindley sera la carte numéro 1 de la Bora, que ce sera pas Roglic, hein, franchement. non pas que je déteste.
Alors j'ai regardé un peu leur salary cap, Poppy, sans vouloir te vexer.
Bah oui,
ça va être Roglic la carte maîtresse de la Bora.
Je me doute bien, après, mais je pense qu'Hindley a les capacités pour jouer les avant.
Après, juste la probabilité que Roglic se pète quelque chose sur les chemins blancs est aussi assez élevée, donc on verra.
Voilà, se remettre l'épaule en place, gratos là.
Peut-être qu'on va le voir se remettre un fémur cette année ou un truc comme ça. On va découvrir qu'il fait autre chose que des épaules, tonton Primoz. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le petit Jane Lay?
Non.
C'est bon.
Bah écoutez, moi je reste dans le milieu du sprint et j'ai envie de vous parler d'un coureur que j'aime bien, Jonathan Milan. Ça va être mon top de cette année. Je suis très content de l'avoir vu rejoindre la Lidl Trek. Je pense que son profil, Lidl Trek qu'on voit briller avec Mats Pedersen depuis des années, je trouve que sans dire que c'est exactement les mêmes, parce que c'est pas exactement les mêmes, ils ont quand même des qualités un peu similaires, ne serait-ce que dans la capacité à passer les boss. Et je pense que Jonathan Milan, alors on parlait par exemple d'un Bennett qui va dans une équipe où il n'y a pas un savoir-faire du sprint, et ben je trouve qu'à la Lidl Trek, il y a un savoir-faire de avoir ce sprinter qui passe bien les boss, savoir contrôler la course, rouler quand il faut rouler pour lâcher les sprinteurs qui passent pas les boss, contrôler l'échappée, amener ton gars le mieux possible, enfin, etc., etc. Et en plus, on a vu clairement l'année dernière sur le Giro que Jonathan Milan, une fois qu'il était passé, il avait pas besoin de grand monde pour aller faire des sprints de mammouth. J'ai hâte de le voir sous ses nouvelles couleurs. Je le vois bien faire une super saison. Également, et je veux bien votre avis là-dessus, messieurs. Alors, j'ai vu que ça fait plusieurs années qu'il s'aligne sur les Flandriennes sans trop de résultats probants. Pourtant, quand je vois son profil, je me dis que c'est typiquement un coureur qui pourrait réussir. Cette année, il fait encore Roubaix et le Ronde. Il fait aussi Milan-San Remo. Je me dis, alors, je sais pas si Mats Pedersen va être sur ces classiques-là aussi, si ce sera lui le leader ou pas, ou s'ils vont jouer la carte du nombre un peu façon Wolfpack. Mais je voulais savoir si, selon vous, il est capable de briller sur ces Ardennaises où il s'aligne depuis plusieurs années, mais globalement il est toujours DNF. Vous irez voir sur son Pro Cycling Stats, c'est assez ouf, il en finit pas une. Mais est-ce qu'il en finit pas une parce que c'est juste un gros poissard, un peu comme Pedersen sur les années avant 2023, là où on était là, purée, mais il finit jamais, c'est pas possible. Ou est-ce que simplement, juste, c'est pas des courses pour lui, mais alors pourquoi ici à Ligne, c'est ma grande question. Donc voilà, mon top, c'est Jonathan Milan qui retourne en plus sur le Giro d'Italia et j'ai hâte de le voir à la bagarre avec des mecs comme Van Aert pour régler des beaux sprints après avoir passé des boss punchy. Et puis voilà, j'aimerais votre avis sur cette histoire de classique flandrienne qui me pose réellement question.
Vas-y, Bobby.
Ouais, je sais pas. En fait, Jonathan Milan, je trouve que c'est une tête brûlée. Dans sa façon de courir et de sprinter, je trouve que c'est une tête brûlée. Il a une puissance qui est phénoménale. On l'a vu sur le Giro. Le Giro, en termes de sprint, ce qu'il nous fait, c'est exceptionnel. Mais en fait, sur des courses où il y a quand même un aspect un petit peu différent, je trouve, sur des classiques. Je le vois plus en difficulté, voilà. Milan-San Remo, il y a quasi 300 km, donc il y a un côté là qui est assez différent. Et puis il y a cette dernière bosse qui aussi, je pense, ne joue pas à son avantage, en tout cas pas face à des spécialistes comme on pourrait avoir Van der Poel, Van Aert, etc. Sur le Giro, je pense que ça va carburer. Voilà. En plus, le fait qu'il a rejoint la Lidl Trek, c'est très très bien. C'est très très bien. Je pense que ça va lui faire prendre un autre statut encore. Moi, je pense que Jonathan Milan, ça restera un sprinter de grand tour et en tout cas, de course à étapes. S'il regagne le Giro, enfin le classement à points du Giro, ce serait une saison pleinement rempli pour moi. S'il peut aller choper 2-3 victoires ailleurs, ça pourrait être super et je pense qu'il va y arriver, donc je ne fais pas de soucis là-dessus. Pour moi, cette saison, elle sera remplie. Maintenant, hâte de le voir sur un Tour de France, voilà. Hâte de le voir se confronter à ce qui se fait de mieux dans le monde du sprint. Mais en tout cas, moi, pour la prochaine saison, j'ai aucun doute sur le fait que Jonathan Milan va s'en sortir. Classique, je pense que ça va être. Classique et monument plutôt, ça va être un petit peu, je pense, encore une fois, trop compliqué pour lui.
Juste avant, Titien, un petit point calendrier de Jonathan Milan. Clairement, pour le moment, il court jusqu'au Giro. Après, il a rien annoncé. Sa saison, elle commence le 31 janvier. Elle finit fin mai. On ne sait pas s'il courra après, mais voilà.
Ouais, bah moi le seul, enfin il est très fort Jonathan Milan, mais il est très fort quelques fois dans l'année. En fait, il est pour l'instant très très inconstant. Si on regarde sa saison l'année dernière, il a été très fort. Et puis c'est autour d'Abu Dhabi ou un truc comme ça où il règle 2-3 sprints. Ensuite pendant 2 mois il est plus là et il fait un super Giro où il gagne une étape plus une je crois plus le maillot cyclamen effectivement. Et ensuite il disparaît quasi tout le reste de la saison pour ressurgir au mois de septembre octobre et gagner une ou deux courses de fin de saison. Donc il est assez inconstant. J'ai l'impression qu'il manque encore beaucoup d'endurance sur les Flandriennes. Je me souviens qu'il avait attaqué l'an dernier sur le Tour des Flandres loin de l'arrivée et que il s'était fait rapidement lâcher. Donc moi, je sais pas. Je pense que de toute façon, la trek sur les Flandriennes sera tout autour de Mats Pedersen. Mais moi, là où je vois en top, c'est effectivement sur son Giro. Je pense qu'il peut aller chercher une ou deux étapes aussi. À voir cette année, ce sera la première fois qu'on le verra face à une vraie concurrence et que notamment soit Van Aert sur les arrivées en montée, soit Coy qui est prévu aussi sur le Giro pour la Jumbo, qui sera emmené par Van Aert parfaitement sur les sprints. Jakobsen qui a prévu d'être sur le Giro également aussi. Donc ça va être un vrai test en tout cas pour Jonathan Milan. Ce qui est sûr, c'est que le potentiel est là, c'est vraiment une bête. Après, à voir s'il peut être constant et passer ce palier qui peut lui permettre de faire partie des top sprinters du peloton. C'est vrai que sur les classiques, je vais pas dire que j'y crois pas parce qu'il est jeune encore, mais pour l'instant, il a rien montré. Donc voilà, top sur le Giro, je dirais, mais voilà. Enfin, pour moi, c'est pas parce qu'il gagne deux étapes du Giro, par exemple, que ce sera un top à la fin de l'année. Donc, écoute, il peut que nous surprendre, mais je suis mitigé sur Jonathan Milan.
Fort bien. Messieurs, il est temps maintenant de passer aux fameuses Fire Bullets. En plus, c'est parfait. On s'était dit pas plus de 45 minutes pour l'émission. On est déjà à 55 minutes. Donc,
Let's go.
Je t'en prie, envoie la sauce.
Alors, bon, en fait, je vais vous poser quelques questions comme ça, et puis vous, voilà, vous dites ce que vous en pensez, et puis voilà, je ne sais pas forcément tourner comme top ou flop avec une petite question ouverte, et puis vous, voilà, vous réagissez. Première question, est-ce que pour vous, Canoyte Brooks, qui a fait du Giro son principal objectif de l'année, sera sur le podium de ce Giro?
Ouf, il peut.
Oui.
Voilà ma réponse, il peut.
Poppy, t'es d'accord?
Oui, pour moi, oui, il sera sur le podium.
Ok, donc c'est plutôt un top quand même pour vous deux. Vous le voyez bien figuré.
S'il fait plutôt, un podium Giro, on va être relativement satisfait, ouais. Et on va se dire que pour la suite, en effet, c'est un gars qui a de l'avenir sur les courses à étapes, ouais. Je dis pas qu'il y sera, mais je dis que clairement, il peut. C'est pas un non fermé définitif, c'est plutôt un ouais pour moi, encourageant.
Pour moi, il y sera.
Ok, Josh Tarling, champion olympique du chrono et meilleur rouleur à 20 ans du peloton, c'est jouable pour vous?
C'est totalement oui, en plus on sait que les Britanniques préparent toujours les jeux avec à la perfection au niveau du vélo, hein. On parlera de Londres tranquillou, donc oui.
Il peut, mais il sera pas champion olympique pour moi.
Ah ouais, pour moi il le sera parce que Evenepoel il sortira peut-être un peu rincé du tour et Ganna il sera peut-être plus sur la piste, je sais pas. Enfin, et Tarling a dit que c'était son grand objectif de l'année, donc vu ce qu'il a montré à 19 ans, je me dis qu'à 20 ans. En tout cas, voilà, écoutez, je voulais vous poser la question. Christophe Laporte, ça jouera la gagne soit sur Roubaix, soit Milan-San Remo?
Sur Roubaix.
Plus sur Roubaix, ouais. Ouais, plus sur Roubaix, mais je pense qu'il gagnera pas.
Ok, moi je le vois bien jouer la gagne sur Paris-Roubaix, je pense que c'est une course qui est parfaite pour Christophe Laporte, je sais pas, je me dis que face à des Pogacar ou Van Der Poel dans le Poggio, il sera... En plus cette année apparemment Van Aert va pas faire Milan-San Remo, donc je le vois un peu... il sera un peu tout seul Christophe Laporte, je suis pas sûr qu'il profite d'un marquage, mais vu sa puissance sur le plat là, enfin sur Paris-Roubaix, pour moi... En tout cas s'il peut en gagner une cette année, moi je mise sur Paris-Roubaix. Uno X, pour vous, est-ce qu'il y aura une première victoire sur le Tour en 2024? Et si oui, par qui sera-t-elle apportée?
Magnus, cannot stop Magnus, is a coincidence. Nanana, bien sûr, voilà, Titien, pourquoi? Merci, tu t'es dit, on en a pas parlé.
Parce que maintenant, ouais, exactement.
Quand t'as vu que j'avais pas mis Magnus dans mes tops.
Ça nous a tous surpris d'ailleurs, que Magnus soit dans les tops. Mais bon.
Vous m'avez empêché, voilà, je dis la vérité, j'étais censuré. Oh. Non, je m'auto-censure maintenant,
Et toi, Poppy, ça va gagner aussi une victoire, une OX sur le Tour?
Non, je pense pas, malheureusement.
Et Magnus, il gagne où il veut, quand il veut, messieurs, d'accord?
Mais il sera vainqueur du Tour, Magnus, mais sans gagner une étape.
Le maillot jaune, tu veux dire?
Oui, évidemment, évidemment.
Moi, de mon avis, ils sont quand même bien renforcés. Ils vont venir sur le Tour avec des gagneurs, que ce soit Kort Nielsen, Leknesun, ou Leknesun qui a rejoint une OX, hein, ou Tobias Allan Johansen qui a retrouvé son niveau. Donc, moi, je les vois bien aller gagner une belle étape en échapper avec un de ces trois coureurs-là. Van Der Poel, il va tout rafler sur les courses d'un jour ou pas?
Non. Je pense que Van Der Poel, tout Van Der Poel qu'il est, il va commencer un petit peu à subir ce que Julien avait subi, c'est-à-dire le maillot de champion du monde sur les épaules. Et je pense que, comme je te l'ai dit sur LBL, il y a des courses où il est le plus fort, il y a d'autres courses où il sera moins fort. Et je pense que, par exemple, l'an dernier, sur Milan-San Remo, il joue vachement du fait que, dans la montée, Pogacar fasse le travail comme un zouave et tout, et qu'on l'attende pas capable de faire ça derrière, Mathieu Van Der Poel. Enfin, on sait qu'il est capable, mais peut-être qu'à ce moment-là, voilà. Là, clairement, s'il est dans le groupe de 4 qui part, il y en a qui vont le regarder en lui disant, mec, t'as gagné, t'as le maillot sur les épaules, c'est un de tes objectifs, tu veux pas? On n'y va pas non plus, frérot. Et je pense qu'on va voir là si c'est vraiment un fin tacticien ou s'il gagne que quand il est le plus fort.
Moi, je pense qu'il va bien tout gagner. Je le vois plutôt en forme, sachant que ses principaux concurrents vont un peu s'éparpiller. Donc, ouais, je le vois bien, Van Der Poel, cette année.
Oh, mais pour moi, il va tout exploser, les gars. J'ai l'impression qu'il a atteint une sorte de maturité physique et mentale. Enfin, c'est devenu un monstre de chez monstre. Et pour moi, écoutez, allez, je me mouille. Je vois un triplé Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, JO. pense que les championnats du monde seront un peu trop durs pour lui, mais je vois ce triplé là. En tout cas, les JO, le parcours, il y va comme un gant. C'est son grand objectif de l'année. Si ça se joue à la force pure, je vois Mathieu Van Der Poel champion olympique. On parlait de Mathieu Van Der Poel. Wout Van Aert, un monument cette année pour Wout Van Aert?
Il va falloir. Hein.
Non.
Il va falloir, mais je suis pas sûr non plus.
En Théo, il commence à être un peu en mode, il est dépité là.
Non, mais c'est plus que genre en vrai, tu vois, il va faire le Tour des Flandres. Je reste persuadé que c'est pas la course sur laquelle il peut être le meilleur. Il va faire Roubaix. L'an dernier, ça lui tendait les bras et il a pas eu de chance. Je vois pas pourquoi cette année il aurait de la chance. Et c'est les deux seuls qu'il fait cette année, je crois. Donc non, en vrai, ça me fait mal au cœur, mais vu qu'on a dit que Christophe Laporte allait s'imposer sur Paris-Roubaix, Wout Van Aert doit faire deuxième. Quoique, connaissant Laporte, peut-être que s'il peut... Enfin, tu vois, s'il y a un monde où il peut faire gagner Van Aert, il le fera gagner, mais...
Non, pas sur Roubaix, quand même, c'est impossible.
Franchement, je suis sûr que sur Roubaix, non. Ça peut arriver.
Impossible. C'est l'occasion d'une vie.
On verra, oui, mais on pensait que c'était impossible qu'un mec comme Van Aert laisse gagner Laporte sur une classique comme il l'a fait l'an passé, même si c'est entre guillemets qu'une semi-classique, elle a quand même de l'importance chez nos amis belges et il l'a fait, donc je sais pas. Mais en tout cas, non, pas de monument pour Wood cette année, malheureusement. Mon cœur saigne très fort d'ailleurs.
Ok, Poppy, t'es plutôt d'accord?
Oui, je suis d'accord. Hein, ça va être Van Aert. Aïe, 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 quoi, le syndrome pour lui.
Bah ouais, moi je suis d'accord. De toute façon, je pense que sur le Tour des Flandres, il sera peut-être trop limité. Et pour moi, je pense que sur Roubaix, il sera très fort. Mais que voilà, effectivement, je fais mon petit pari Christophe Laporte. Donc je pense que ça va être dur pour Wout Van Aert. Alors, un sujet qui fâche, mais on n'a pas gagné une seule course par étape World Tour depuis Christophe Moreau sur le Critérium du Dauphiné 2007. Donc,
ça changera pas cette année, t'inquiète.
Voilà, c'était ma question. C'était, est-ce qu'un Français va, un David Gaudu qui gagne un Paris-Nice, un Tour du Pays Basque? Non, d'accord.
Non.
Non, mais par contre, je vois bien des mecs qu'on a vu un petit peu en couveuse l'an passé. Arriver à nous faire des belles perfs cette année et à les chatouiller encore plus. Je pense à des Lenny Martinez, Romain Grégoire. Enfin, forcément, hein, je révolutionne pas le vélo, mais je les vois bien perfés, tu vois.
C'était ma question. Est-ce que Romain Grégoire sera sur le podium d'une des trois Ardennaises?
Ouais. Allez, ouais.
Non.
Et je dis l'Amstel.
Eh ben, ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense que ça lui convient bien. La flèche aussi, je sais pas. Je pense que Liège, c'est peut-être un peu compliqué, mais... Et en tout cas, je pense que c'est un vrai crack. Et du coup, voilà, toi, Poppy, t'es pas convaincu?
Non, je pense pas. Je pense que ça va être encore trop léger. L'année prochaine, peut-être, mais pas cette année, en tout cas.
Et Titien, tu vois, je ferais bien aussi un pari, genre Martinez, podium d'une course par étape d'une semaine.
Ouais, il a un beau calendrier, en plus. Hein, jusqu'au... Ouais, je crois qu'il fait Tour de Romandie, Tour de Catalogne, Tour de Suisse, Tour d'Espagne. Enfin, pas mal de courses par étapes. Donc, je pense que Lenny Martinez, effectivement.
Un petit Tour de Suisse où il arrive, où tu sais, les autres sont vraiment là pour préparer le tour. Et lui, il se dit, tu sais quoi, j'ai envie d'essayer vraiment de me tester à 100% sur une. Tu vois, ces courses un peu de préparation de grand tour où tout le monde a des objectifs croisés et tout. Ouais, je le vois bien capable d'aller. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait beaucoup de chronos sur le Tour de Suisse cette année, mais une course comme ça, ouais. Je double la mise. Romain Grégoire et Martinez sur des podiums cette année.
Et bah, allez, on espère tous. Et en parlant de grosses cuisses, Arnaud Delis, ça va gagner une Flandrienne cette année?
Non.
Ah, dur ça, hein, putain. Je sais pas, j'ai été déçu quand même par Delis l'an passé. On en faisait vraiment un putain de crack qu'elle est l'année de la confirmation et.
Oh non!
Ah si, gros, l'an passé.
La seule course où il déçoit, c'est San Remo, où il se fait lâcher dans la Cipressa. Mais
oui, voilà.
Mais les sprints de bourrin qu'il fait en montée, et c'était l'année de la découverte pour lui dans le World Tour.
Oui, il découvrait le World Tour, mais on pensait qu'il allait tout casser, moi, tu vois.
Pour moi, si Van Aert, il emmène Delis au championnat d'Europe, Delis, il est champion d'Europe.
Ouais, peut-être, mais tu vois, sur les Ardennaises l'an dernier, quand même, c'est la grosse déception, quoi.
Flandrienne, non?
Que Ardennaise, oui, sur les Flandriennes, ouais.
Ouais, après c'était tout nouveau, mais ouais, c'est quand même deuxième du Newsblad. Écoutez, moi mon pari c'est que ça y est, cette année.
C'est l'année de la conf. Confirmation.
Je vois bien sur un grand VVL game, tu vois, un truc comme ça, une course qui pourrait bien lui aller. Je pense que de toute façon, sur les Flandres, ça va être peut-être un peu trop dur pour lui. Il a quand même que 20, même pas 22 ans encore, donc voilà, les monuments c'est un peu long, faut qu'il apprenne. Mais ouais, je pense qu'en tout cas, vu ce qu'il montre, non, il est très fort, Arnaud Delis. J'en ai encore une ou deux.
Vas-y,
qu'est-ce
vas-y.
Que je pouvais vous demander? Alors, ça va être qui le Ben Ely de l'année, c'est-à-dire le mec qu'on n'attendait pas du tout et qui va nous sortir des perfs de malade.
Qu'on n'attend pas du tout ou qu'on attend un peu quand même?
Un chouïa, mais disons qu'en tout cas, son niveau de cette année va rien avoir avec les performances qu'il a eues les années d'avant.
Ok. Ah, ça, c'est une sacrée question, ça.
Je parle pas forcément d'un mec qui sort des juniors, etc., qui va faire... Tu vois, par exemple, Del Toro, cette année, il va peut-être faire une saison de fou furieux, mais pour autant, voilà, c'est pas le même type de coureur que Ben Ely, où Ben Ely, c'était quand même un mec qui était dans le World Tour depuis 2 ans déjà, et qui, par contre, l'année dernière, on s'y attendait pas, et voilà, il s'est révélé, quoi.
Eh ben... Mauro Schmid avec son changement d'équipe. Même si on le connaît déjà un peu, tu vois, je le vois bien faire une grosse saison.
Ouais. Pourquoi pas. moi, j'aurais plus tendance à dire, par rapport à ce qu'il nous a fait, Narvaez. Qui avait été vachement décevant les années d'avant et qui, là, je sais pas, cette année, j'ai l'impression qu'il peut aller chercher quelque chose sur certaines courses un petit peu, tu sais, des courses où tu peux faire le coup du kilomètre ou alors que tu peux t'en sortir dans une bosse, etc. Je pense qu'il a quelque chose à jouer cette année, en tout cas, ouais. Narvaez, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie un peu de le... Je pense qu'il va nous faire une saison assez sympathique. En tout cas, il commence bien, je trouve.
Et du coup, le jeune, donc là, pour le coup, vraiment un mec jeune, qui va tout fracasser cette année. Qui va devenir un crack.
Franchement, t'as parlé de Del Toro tout à l'heure. Enfin, tu vois, genre... Quand tu l'as mis dans ta compo Cycling Fantasy, moi je l'avais pas mis. Je me suis dit, est-ce que je le mets ou pas? J'ai fait, ah non. Allez. Bah,
j'avais vu qu'il avait fait, tu sais, il avait fait 3e sur une truc tout plat, là, la classique de 3 jours avant, là. Je me suis dit, bon, allez, à 200. Allez.
Mais t'as trop bien fait. Moi je me suis dit, ah non, c'est, on le voit trop beau, trop tout de suite et tout. Franchement, après le tour d'un under qu'il nous fait, là, au-delà de ce qu'il fait sur le vélo, il y a aussi la manière dont il le fait, comme il sent le truc, enfin tu vois, c'est peut-être pas du courage, mais c'est du ah voilà quoi, il ose, voilà, c'est ça l'instinct, le fait d'oser et tout. Allez, ouais, même si c'est peut-être pas prendre trop de risques au vu du début de saison, je pense que Del Toro il peut nous faire une sacrée grosse saison cette année et qu'à la fin de l'année on se dise ah ouais, d'accord, il y a lui en plus, oh là 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 là, mais ça s'arrête jamais en fait.
Ouais, mais en fait, Jonathan Milan, mais pourquoi je l'ai mis en top?
Non, mais le vélo, en fait, c'est de 20 à 25 ans, quoi. Après, on les oublie, les typos, c'est des nouveaux qui les remplacent, quoi. Voilà.
Poppy?
Bah écoute, je sais pas, j'avais envie de dire le petit Hughes de Broek, mais je me dis que c'est un peu facile de dire ça, quoi, mais j'ai l'impression que cette année ça va être quelque chose de pas mal, en plus avec son changement d'équipe pour le...
Moi je suis d'accord avec toi, s'il fait podium d'un grand tour, c'est vraiment qu'il aura explosé quand même.
Ouais, mais en fait c'est son changement d'équipe c'est comment, Visma Lease, c'est ça, ou Jumbo, j'ai vu,
ouais,
quoi,
la Visma.
Visma Lease a bike,
voilà. Et bah, son changement d'équipe, moi je trouve que ça va être un gros plus. Et si ça peut être une nouvelle carte, en tout cas un nouveau chef de file avec Vingegaard, bah en vrai, ouais, je le vois bien tout exploser au Giro, quoi. Enfin, peut-être pas gagner, parce qu'il y a Poggi qui sera là.
Ouais, j'allais dire. Et la vraie question, excuse-moi, je te coupe, Poppy, mais est-ce que c'est pas juste De Broek qui gagne le Giro devant Pogacar?
Bah putain.
Et il fait Vingegaard, tu vois, genre.
Non, après, je pense qu'il y a encore un petit écart entre les deux quand même, mais en tout cas, Hughes de Broek, je pense qu'il sera dans mon équipe Cycling Fantasy sur le Giro. Hein.
Oui, dans celle de beaucoup de monde, je pense. Hein.
Oui, ouais. Mais en tout cas, je le vois bien. Je le vois bien se mettre en avant sur le Giro et mener la vie dure à Pogacar. Ça, c'est, je le vois vraiment, vraiment fort sur ce Giro.
Tout à fait. Et ben, pour moi, le jeune qui va tout casser, ben, écoutez, j'ai envie de dire un jeune de chez Jumbo. Souvent, ça marche bien. Je vais dire Per Strandhagenes, là, l'ancien champion du monde junior, je crois, qui avait gagné devant Romain Grégoire quelques années. Ben, écoutez, je trouve que l'année dernière, il a fait des très bonnes courses et j'aurais bien explosé sur les Flandriennes et montré tout son talent. Avant, dernière question très rapide. Est-ce qu'il y a un mec qui va concurrencer Philipsen cette année sur les sprints?
Oui.
Oui, mais qui? Tu sais, Philipsen, j'ai un peu l'impression pareil que j'imagine bien le mec aussi, tu sais, qu'à la carrière, j'ai un peu l'impression que c'est ça chez les sprinteurs en ce moment, mais ils font une saison de ouf et la saison d'après c'est le down et c'est quelqu'un qui vient les dépasser. Je pourrais pas te donner un nom, mais je vois bien par contre Philipsen moins performant que l'an passé. Genre l'année dernière c'était sa saison prime, on dira waouh, ouais, cette année-là de Philipsen c'était ouf. Je le vois pas réaliser la même cette année.
Et Poppy, tu disais oui, tu vois un mec pouvoir rivaliser avec Philipsen?
Non, pas forcément, mais en fait, comme l'a dit Théo juste avant, je pense que la saison dernière, c'était vraiment sa grosse, grosse saison où il était vraiment injouable. Et cette année, ça va un petit peu descendre. Et j'ai, en fait, c'est pas vraiment une crainte, mais je me dis, Philipsen, tu sais, il va voir qu'il arrive pas à tout surdominer. Et en fait, bah, il va juste devoir, peut-être avoir un petit coup de moins bien. Et, tu sais, je sais pas, potentiellement une micro perte de confiance, et en tout cas se dire bah en fait maintenant tout le monde peut me battre quoi, donc faut que je fasse. Voilà, donc je vois un petit peu Philipsen un peu plus en retrait cette saison. Je dis pas qu'il gagnera pas, mais en tout cas je le vois moins être l'unique, enfin en tout cas être le meilleur sprinter du peloton, ça je ne le vois pas là-dedans.
Ok, bah moi je le vois toujours être très très fort et toujours le meilleur sprinter du peloton, mais je pense qu'il y a un mec qui peut rivaliser avec lui, et l'année dernière je l'ai déjà trouvé très fort, c'est Olaf Coy, le sprinter de l'équipe Visma Liseberg. Je trouve qu'à 22 ans ou 23 ans il était déjà très très fort, et je pense que cette année ça va vraiment devenir peut-être voilà avec Philipsen le tout meilleur sprinter du peloton devant les autres.
Mais est-ce qu'ils vont enfin, vraiment croiser dernière... Titien au vu des programmes respectifs?
Non, mais ce que je veux dire par ça c'est que à la fin de l'année, quand faudra élire, par exemple, je sais pas, le meilleur sprinter de l'année, bah, on saura pas forcément dire entre l'un et l'autre. Je dis pas que, voilà, ils vont beaucoup se croiser, mais je pense qu'il va y avoir deux sprinters qui vont être au-dessus du lot, et ce sera ces deux-là cette année, un peu à niveau équivalent, quoi. Après, okay. Effectivement, c'est pas dans un sens où l'un va dominer l'autre, quoi que ce soit, c'est plus, voilà. L'année dernière, il n'y avait pas photo. Philipsen, c'est le meilleur sprinter de l'année, et voilà. Si quoi, il va claquer 5 étapes sur le Giro, par exemple, voilà, ce sera une belle performance, donc à voir. Et enfin, ma dernière fireboulette, c'est quoi pour vous le collectif qui va surprendre cette année, qu'on n'attend pas forcément, et l'équipe va bien fonctionner, il y aura une bonne dynamique et ils vont faire une belle saison.
Ineos. Je vois le retour...
Le tour de Rodriguez.
Ouais, ou même d'Ineos en règle générale, je trouve qu'ils ont bien dégraissé. J'ai l'impression qu'ils savent un peu plus où ils vont. Et ouais, je vois bien une fin d'année où on se dit putain, Ineos, ils ont claqué quand même cette année. Donc ouais, Ineos pour moi.
Ouais, je suis d'accord, je vois pas vraiment d'autres équipes. Bah du coup là, je dirais bien la Bora par rapport à Inley, mais sinon non, je vais rester quand même sur mon idée de la Bora pour faire honneur à Jay Inley, mais sinon Ineos, je suis complètement d'accord, je te rejoins là-dessus, je pense que les fantômes du passé ne planent plus vraiment au-dessus de leur tête et qu'ils sont capables maintenant de se réinventer et de prendre une nouvelle direction avec des nouveaux coureurs. Donc voilà, je pense que ça va être sympa pour Ineos cette année, mais voilà.
Ouais, bah moi je suis d'accord. Ouais, bah moi je suis d'accord, je dirais Ineos aussi, voilà, parce qu'on les attend pas forcément, on pense qu'ils ont perdu beaucoup, et c'est peut-être l'année du rebond pour l'équipe Ineos. Et désolé, j'avais oublié une dernière question qui est pas mal. Pour vous, l'armada annoncée de chez UAE sur le tour avec leurs 4 leaders, ça va tout casser ou ça va être un énorme flop?
Ça va être un énorme flop.
Voilà, je pense que ça va tout casser. Hein.
Je suis vraiment pas fan, moi, de ce fonctionnement-là, mais vraiment pas.
Je suis assez d'accord, pour moi ce sera un gros flop.
Ah, moi je pense que ça va être plutôt sympa, hein. Franchement, t'as tellement de... S'il la joue un peu à la mode Jumbo, putain, ça peut faire vraiment un taf monstrueux, et Vingegaard, il peut vite se faire submerger. Donc non, franchement, moi je pense que ça peut être vraiment sympa. Si l'équipe est bien utilisée, ce sera un carnage, mais si c'est mal géré et que c'est juste là pour faire des relais, bah malheureusement ça sera un petit peu triste. Mais j'ai l'espoir que l'équipe soit bien utilisée et que du coup, ça soit vraiment un massacre. Voilà.
Ah ben, moi, je pense que ce sera un massacre dans le sens inverse. Almeida, c'est un très mauvais équipier. Même cette année pour Ayuso, des fois, il l'attendait pas, alors qu'il était complètement largué au général, ça n'a aucun sens. Ayuso, bah, il est jeune. Pour moi, Ayuso, j'ai du mal à le voir dans un rôle d'équipier. Je sais pas, c'est très bizarre. Il n'y a que Yates. Enfin, voilà, mais Pipo Gacchar qui aura le Giro dans les pattes, je sais pas. J'ai l'impression que... Ça me fait penser un peu à la T-Mobile de Jan Ulrich qui débarquait avec Claudon, avec Vinokourov. Enfin, on disait ils vont tout casser face à l'armada de US Postal ou Discovery d'Armstrong, et puis finalement ça flopait assez rapidement. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Donc écoute, dans tous les cas, on pourra pas leur reprocher cette année de mettre toutes les chances de leur côté. Donc à voir. Voilà, c'était le petit tour des Fireboulettes.
Bah écoute, Tissin, c'était bien sympathique en tout cas. Alors ouais. Vous qui nous avez écoutés, n'hésitez pas également à donner votre avis sur les tops et les flops. Quel coureur vous voyez toper, flopper, si vous avez des réactions par rapport à tout ce qu'on a amené en termes de coureurs, et également sur les Fire Bullets de Tissien qui étaient bien fun, ou si vous avez d'autres Fire Bullets que vous voulez nous soumettre, on n'hésitera pas à répondre aux commentaires. Également, si vous nous découvrez, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vous l'a dit, on n'est pas loin des 1800, hein. Chaque jour, on gratouille un petit peu, un petit abonné par-ci, un petit abonné par-là. Donc voilà, ce serait coolos, avant le retour des grosses courses, qu'on puisse passer cette petite barre. Encore une fois, merci à celles et ceux qui ont candidaté, pour les postes qu'on proposait. C'était vraiment cool de pouvoir avoir ces liens avec vous. Bientôt vous aurez du coup connaissance des nouveaux membres qui vont nous rejoindre pour cette année 2024. On arrive tout bientôt avec du nouveau contenu, hein, comme on l'a dit, la saison démarre. Merci messieurs pour cette émission.
Bah merci de nous avoir accueillis encore une fois, j'ai envie de dire, pour nos magnifiques prédictions, et puis en espérant que tout se réalise, mais j'ai pas trop de doute là-dessus.
Ouais, c'était très très cool. J'ai hâte du coup de la victoire sur le tour de Carlos Rodriguez devant Jay Hindley, et puis voilà. non mais écoutez, voilà, prenez-nous à la légère et puis on refera le point à la fin d'année, même à la mi-saison, on verra un peu si on a eu raison ou tort. Mais en tout cas, c'était bien de se projeter un peu sur l'année, et puis ça donne trop envie de voir ce qui est arrivé. Là, je suis impatient déjà d'être à la mi-février, début mars, pour avoir les courses qui commencent à s'enchaîner. Donc voilà, impatient de cette saison qui va démarrer très bientôt maintenant sur le sol européen.
Super, et bien voilà, merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis ce soir. Il fait encore froid, nous sommes en plein hiver et la saison rattaque de toute beauté. Donc n'hésitez pas à vous alimenter, pensez-y, c'est important. À tout bientôt, bonne soirée à toutes et à tous, pardon. Ciao, ciao.
Salut les copains,
à tous,
bye bye.
Et allez, on va barder.